101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Les Occidentaux en Afghanistan, ils ont tout raté, à tout point de vue. La défaite américaine, c'est une défaite politique. C'est une défaite du système corrompu occidental. Vous avez vu, après la défaite, le retrait des Occidentaux, nos médias dégoulinaient d'articles pour dire « Oh, maintenant, les femmes afghanes, etc., etc. Les femmes. » Bien sûr, le droit musulman traditionnel, celui qui va être imposé par les talibans, il est très défavorable aux femmes, mais ce n'est pas ça qui a été déterminant. Les responsables de cette catastrophe antiféministe en Afghanistan, ce sont les Occidentaux.
C'est vrai qu'à la fin de l'été 2021, les médias ont bien larmoyé sur le retour des talibans en Afghanistan. Et puis comme d'habitude, une actualité en chassant une autre, on a vite arrêté de s'apitoyer sur les Afghans pour pleurnicher sur autre chose. Et l'Afghanistan est depuis retombé dans les oubliettes des médias. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off avec les copains profs d'histoire géo, André, Daniel et Philippe, spécial Afghanistan, autour d'articles du monde diplomatique. Avant que dans quelques instants, Daniel ne survole rapidement l'histoire contemporaine de l'Afghanistan, voici en préambule quelques grandes étapes de ce récit. 1973, renversement de la monarchie, instauration d'une république afghane dirigée par Mohamed Daoud. Avril 78, le Parti démocratique populaire d'Afghanistan renverse ce régime. Le nouveau gouvernement, d'orientation socialiste et pro-soviétique, met en place une série de réformes collectivistes et sociales. Alphabétisation, abolition des dettes paysannes, droits des femmes, réformes agraires, etc. Des réformes qui contrarient les coutumes conservatrices afghanes. Ce nouveau gouvernement fait face à de multiples oppositions de la part des forces conservatrices et islamistes. Décembre 79. Les troupes soviétiques interviennent pour maintenir le pouvoir en place. L'occupation des troupes de l'armée russe dure 10 ans. L'opposition à cette occupation militaire étrangère va se développer, menée par des groupes de moudjahidines, notamment ceux du commandant Massoud. Ces groupes sont soutenus militairement et financièrement par le Pakistan et l'Arabie Saoudite. L'aide américaine qui va monter en puissance transite par le Pakistan. En 1986, les moudjahidines, notamment, reçoivent des missiles sol-air Stinger américains, ce qui fait perdre le contrôle des airs à l'armée russe. 15 février 89, les dernières troupes russes quittent l'Afghanistan, chassées par les troupes de moudjahidines puissamment soutenues par les Américains. Peu après leur retrait, la guerre civile ravage le pays. 27 septembre 96, les talibans prennent le dessus et le contrôle de Kaboul. Les groupes armés moudjahidines forment l'Alliance du Nord et combattent les talibans. La guerre civile entre l'Alliance du Nord et les talibans prend fin en 2001 après l'effondrement du régime taliban. C'est après les attentats du 11 septembre 2001 revendiqués par Al-Qaïda et son chef Ben Laden que l'impérialisme états-unien intervient directement et militairement en Afghanistan sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Le nouveau pouvoir d'Hamid Karzai, mis en place par la coalition, tente de rétablir l'ordre avec le soutien militaire des troupes alliées menées par les États-Unis. Fin 2007, Nicolas Sarkozy, alors président, décide de l'intervention de l'armée française dans la guerre d'Afghanistan. Hollande décide du retrait français fin 2012 avant d'engager une partie de ses troupes quelques mois plus tard au Mali. Août 2003, sous mandat de l'ONU, l'OTAN prend officiellement le commandement de l'International Security Assistance Force, ISAF. Octobre 2004, Kaboul est le seul endroit du pays où le gouvernement d'Hamid Karzai est plus ou moins effectif. Dans le reste du pays, les chefs de guerre issus de l'ancienne Alliance du Nord conservent leur pouvoir. Les quelques groupes talibans restants tentent de détruire le gouvernement d'Hamid Karzai en commettant des attentats. Pendant 20 ans, de 2001 à 2021, les populations afghanes vont survivre, prises entre les armées impérialistes occidentales, les attentats talibans, et sous la tutelle d'un pouvoir fantoche miné par la corruption et le clientélisme. Fin 2020, Donald Trump décide le désengagement américain de plusieurs théâtres d'opérations, dont celui d'Afghanistan. Joe Biden confirme cette décision et s'engage à la mettre en œuvre. Le 29 février 2020, le gouvernement américain et les talibans signent un accord à Doha, au Qatar, qui fixe un calendrier pour le retrait définitif des États-Unis et de leurs alliés. La date ultime pour le départ des troupes américaines d'Afghanistan est fixée au 31 août. Le 15 août, les talibans s'emparent de Kaboul. Développement de cette histoire tout de suite avec Daniel et André. Salut André.
Bonjour mes camarades.
Salut Daniel.
Salut à tous.
À la une du Monde diplomatique de septembre 2021, comment les talibans ont vaincu ? À Kaboul, des attentats revendiqués par l'Organisation de l'État islamique ont tué le 26 août dernier une centaine de personnes, dont des soldats américains et des combattants talibans. Dès leur arrivée à la tête du pays, ceux-ci se trouvent donc à leur tour fragilisés par le terrorisme islamiste. Et l'intervention occidentale en Afghanistan se termine en chaos, ce qui ébranle le crédit des États-Unis. Car une question demeure, comment les talibans, que des commentateurs méprisants ont qualifié de « va-nu-pieds en motocyclette », ont-ils pu l'emporter ? Avant de se pencher sur cet article, Daniel, rapide survol de l'histoire de ce pays, l'Afghanistan, dont tout le monde devrait savoir que personne n'a jamais réussi à l'envahir.
Oui, oui, on va voir à quel point c'est étonnant. Enfin, c'est un cas d'école, ce pays. Et pourquoi ce pays qui échappe au contrôle des empires voisins, pourquoi ces guerres sans fin qui se terminent toujours par la défaite des tentatives de prise de pouvoir extérieure, toujours ? Pourquoi ? Alors, est-ce que l'Afghanistan est un simple carrefour de civilisation ou est-ce que c'est, selon le terme d'un historien anglais, et nous allons voir que les Anglais ont quelques raisons de réfléchir à l'Afghanistan, est-ce que ce serait le cimetière des empires ? Alors, il faut le situer. L'Afghanistan, c'est un pays d'Asie centrale du Sud. Au nord, l'Ouzbékistan. La Chine et le Tadjikistan au nord-est. L'Afghanistan a 90 km de frontière commune avec la Chine. Et de l'autre côté de la frontière, quelle est la population chinoise ? C'est les Ouïghours, les fameux Ouïghours. Au sud-est, vous avez le Pakistan, détaché de l'ancien et glorieux empire des Indes britanniques, à l'ouest l'Iran et au nord-ouest le Turkménistan. Alors c'est un pays qui est un peu plus grand que la France, 652 000 km², moins peuplé, entre 37 et 38 millions d'habitants. La quasi-totalité de la population est musulmane, plus de 90%, mais dans ces 99% et quelques de musulmans, il y a 20% de chiites, ce qui est largement supérieur à la moyenne internationale parmi les musulmans. Les chiites sont très minoritaires dans le monde musulman, autour de 10%. Ils sont 20%. Proximité avec l'Iran. La région Elle est peuplée hein, depuis très 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 longtemps, mais elle entre dans l'histoire vers moins 500. Comment ? Lorsque l'Empire perse, Cyrus Ier, envahit la région et l'intègre au vaste Empire perse. Pour les Grecs, l'Afghanistan, c'est ce qu'ils appellent la Bactriane. Lorsque Alexandre le Grand conquiert l'Empire perse, il conquiert aussi la Bactriane. En moins 327, au scandale général de ses généraux, qu'est-ce que fait Alexandre ? Il épouse une princesse perse de Bactriane. Afghane, en quelque sorte, dans le mot d'aujourd'hui. C'est la fameuse Roxane. On voit bien le projet, hein, unifier l'Orient et l'Occident, carrefour des civilisations, déjà, etc. Bon, ça va pas très bien marcher, puisque finalement, Alexandre va mourir jeune, et Roxane lui donne un fils posthume, né après sa mort. Et les généraux d'Alexandre et successeurs d'Alexandre règlent la question. C'est-à-dire, ils tuent Roxane et le fils d'Alexandre. Et aussi sa mère, d'ailleurs, au passage. Donc là aussi, on voit une longue tradition. Bon, à la fin du 7e siècle, très peu de temps après la période du fondateur de l'islam, Mahomet, le pays est islamisé dans le cadre de la conquête arabo-musulmane de l'Empire perse, l'Empire sassanide. Et l'Afghanistan va faire à peu près comme les populations et la civilisation perse. Ils vont adopter l'islam, mais rejeter les Arabes. Et c'est là où on voit la proportion anormalement élevée de chiites parmi les musulmans afghans. Alors, il y a une série de monarchies afghanes à partir du 9e siècle. La première monarchie afghane clairement identifiée et indépendante, c'est 879. Alors, je ne vais pas passer sur toute l'histoire de ces monarchies, mais il s'agit pour les monarchies afghanes d'échapper au contrôle des empires voisins. L'Empire perse ou l'Empire moghol indien. Par exemple, au XVIe siècle, en 1526, le petit roi de Kaboul, dit Babur, prend son indépendance par rapport au puissant et vaste empire moghol, pas mongol, hein, moghol, c'est-à-dire l'Inde. Et à partir du XIXe siècle, l'Afghanistan se trouve toujours à la croisée des empires. Il y a l'Empire chinois, il y a l'Empire russe, il y a l'Empire perse. Et il y a un nouvel empire extérieur, c'est l'empire des Indes britanniques. À l'époque, le Pakistan est dans les Indes britanniques. Et évidemment, les Britanniques veulent au minimum mettre sous contrôle, voire mettre carrément la main sur l'Afghanistan. Eh bien, ils vont faire trois guerres contre les Afghans et ils vont les perdre toutes les trois. Alors, ils vont remporter des victoires comme les Américains aujourd'hui. On remporte des batailles, on en tue, etc. Mais à la fin, pof, on a perdu. Bon, première grande défaite des Britanniques, 1842, le corps expéditionnaire britannique qui avait pris Kaboul évacue la ville et se fait écraser à ce moment-là. Deuxième grande défaite, 1880, victoire afghane. Et troisième défaite, 1919, troisième victoire des forces afghanes contre la présence britannique. Là, on est juste après la Première Guerre mondiale. Et en gros, ces trois guerres vont fixer les frontières actuelles de l'Afghanistan. Ça laisse des traces, d'ailleurs, dans l'histoire anglaise. Winston Churchill a sa première médaille militaire en Afghanistan. Si vous prenez le docteur Watson, des romans de Conan Doyle, hein, il est blessé en Afghanistan. Prenez Kipling, l'homme qui voulait être roi, il y a un très beau film d'ailleurs. Ça se passe dans cette volonté de contrôle des Britanniques de l'Afghanistan. En 1926, un royaume d'Afghanistan, avec capitale Kaboul, dans les grands remaniements d'après la Première Guerre mondiale, le royaume d'Afghanistan, 1926. Alors ce pays, c'est à la fois un pays montagneux au nord, au nord-est et au nord-ouest, c'est une mosaïque ethnique. Il n'y a pas de pays afghan avec un peuple afghan uniforme, ni cette mosaïque ethnique. Elle a une forte majorité, ce sont les Pashtuns. Ce sont les populations du piémont de la montagne. Le Pashto, la langue des Pashtuns, Afghanistan c'est du Pashto, et qu'est-ce que ça veut dire ? Pays des Pashtuns. La majorité indique bien sa volonté d'être une majorité dominante. Mais en dehors des Pashtuns, il y a des dizaines et des dizaines de groupes ethniques qui ont été regroupés à un moment dans la période de l'invasion, dans la Ligue du Nord, dont Massoud, le fameux commandant Massoud.
C'était des Tadjiks.
Exactement. Ils ne sont pas du tout le même groupe. Alors Massoud, c'est un nom iranien, un nom perse. Alors c'est à la fois un nom et un prénom très 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 courant en Iran. Et c'est l'influence iranienne. Et il faut savoir que les groupes ethniques sont multiples, il y en a dizaines et dizaines, et les langues aussi. Le pachtoun est la langue la plus parlée, mais quelle est la langue véhiculaire entre les divers groupes? C'est pas le pachtoun, c'est le dari. Or le dari, c'est du persan. C'est une variété. On voit très bien l'importance de cette influence iranienne. Remarquez, le célèbre Mollah Omar, sur sa motocyclette Mollah, c'est un mot iranien. Regardez les costumes des talibans aujourd'hui. C'est exactement les mêmes des dignitaires de la République islamique d'Iran. Alors, ce royaume d'Afghanistan, fondé en 1928, c'est un régime qui est occidentalo-compatible. Les Britanniques voient, et l'Occident voit bien, en particulier comme point de rempart contre l'Union soviétique qui vient de naître déjà. Mais évidemment, ils s'enfoncent dans l'immobilisme et la corruption. Et en 1973, la monarchie est renversée et une république est fondée. La République d'Afghanistan. Une république pro-occidentale. En 1978, il y a une révolution. La République afghane devient la République démocratique d'Afghanistan. C'est la mise en place d'un régime progressiste, laïque, proche de l'Union soviétique, et là ça va être le drame, que l'Occident voit comme un danger. N'oubliez pas, au même moment, la révolution contre le Shah d'Iran. D'un seul coup, l'Occident, les États-Unis, voient leur champ d'influence, aussi bien en Afghanistan qu'en Iran, vaciller. Qu'est-ce que choisissent les États-Unis en Iran? Au départ, ils choisissent Roménie. C'est Giscard d'Estaing qui informe à la conférence de la Jamaïque Carter que le Shah d'Iran, il est perdu, hein, il a un cancer et il n'en a pas pour très longtemps. Il faut donc trouver un nouveau cheval. Le peuple s'agite, etc. Et quel est le grand risque pour les États-Unis, la France, les Occidentaux? C'est que la chute du Shah d'Iran soit l'occasion d'un régime progressiste, pro-soviétique, communiste. Et il y a un puissant parti communiste en Iran, le parti Toudé. Donc ils veulent surtout pas ça. Donc ils organisent le retour de Roménie, qui était en exil en France, et le régime de Roménie va se retourner contre l'Occident, plus tard, hein. Donc ce régime progressiste, pro-communiste, on va dire, de Kaboul en 1978, ça inquiète terriblement. Quand je disais tout à l'heure, au nord l'Ouzbékistan, au nord-est le Tadjikistan, au nord-ouest le Turkménistan, à l'époque, c'était des républiques soviétiques. Et que va-t-il se passer? Eh bien, le gouvernement progressiste de la République démocratique d'Afghanistan se lance logiquement dans des projets de réforme, de modernisation du pays. Mais il y en a deux qui vont provoquer l'éclatement. Un, une réforme agraire, partage des terres, c'est un système féodal à l'ancienne, etc. Et deuxième grand projet, un programme de scolarisation massif, y compris des filles. Alors là, c'est l'insurrection des féodaux et des islamistes afghans.
Arte a diffusé une très bonne série en 4 épisodes sur une histoire de l'Afghanistan avec des images d'archives. En ce qui concerne cette période des années 70, c'est très troublant parce qu'au moins dans les villes,
oui,
parce qu'ils expliquent bien dans les campagnes, c'est pas du tout pareil. Des images de Kaboul des années 70, bah tu vois, alors je dis pas que c'est parce que c'est occidentalisé que c'est bien, tu vois des femmes pas bâchées, en jupe, il y a des boîtes de nuit.
Précisément, on voit les femmes habillées à la mode occidentale de l'époque, libérées, etc. Alors il faut pas non plus en faire des... Mais on voit très bien que c'est l'idée de moderniser le pays. Alors, ça a été le fait du royaume d'Afghanistan, de la République de 73 et la République démocratique de 78 veut franchir une étape supplémentaire. Mais là, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire la réforme agraire et une politique massive de scolarisation. Vous avez peut-être vu le film de Konchalovsky qui s'appelle Le Premier Maître, qui raconte comment dans les années 20, on envoie un jeune instituteur, je crois que c'est le Turkménistan, d'Union soviétique, et il arrive pour faire l'école. Le gars, il veut faire l'école à tout le monde. y compris aux filles. Et il se heurte à une société qui comprend pas ce qui lui arrive. Envoyer les filles à l'école, ça, non, ça va pas. Hein. Ça, c'était dans les années 20, dans une république soviétique musulmane. Eh bien, même histoire à la fin des années 70 pour l'Afghanistan.
Ce que le documentaire que je citais relevait aussi, c'est que s'il y a des changements sociétaux dans les villes, oui, il y a un fossé qui se creuse avec les campagnes. Absolument. Et les montagnes.
Mais c'est évident, c'est toujours comme ça. Hein. C'est vrai dans l'Union soviétique des années 20, dans la Chine d'aujourd'hui, hein, et en Afrique c'est pareil. Hein. Il y a des îlots avancés de modernité, et des fois très moderne, mais moi qui connais bien par exemple le Sénégal, Dakar, mais vous faites 20 kilomètres en dehors de Dakar, mais vous changez de plusieurs siècles.
André.
Mais pour qu'un pouvoir urbain central finisse par s'imposer à des campagnes retardées, rétrogrades, etc., il faut qu'il ait une certaine légitimité. En URSS, il faut croire que le pouvoir central a eu une certaine légitimité, puisque le progrès a fini par s'imposer dans ces républiques-là. Et on va voir que le problème reste même pour l'Afghanistan.
Daniel l'évoquait à l'instant, l'Afghanistan est une mosaïque de peuples. Illustration avec cette chanson d'amour ouzbek. Suite de notre survol de l'histoire de l'Afghanistan, toujours avec André et Daniel.
En 78, révolution à Kaboul, la République afghane est remplacée par la République démocratique d'Afghanistan, un régime socialisant, pro-soviétique, type communisme, proto-communiste, on va dire, ou paracommuniste, ou, en tous les cas moderniste. Alors ça crée un gros problème pour l'Occident, c'est que en même temps, en Afghanistan, il y a la déstabilisation du régime du Shah d'Iran, et l'Iran, comme l'Afghanistan de l'époque, sont frontaliers de l'Union soviétique. Et ce nouveau gouvernement, ce nouveau régime, se lance dans des projets de réformes modernes multiples, mais il y en a deux. Deux projets qui sont terribles, c'est une réforme agraire, c'est-à-dire une redistribution des terres, la féodalité afghane, évidemment, est contre, hein, et d'autre part, une politique de scolarisation massive, y compris les filles. Ça provoque, en 79, une insurrection féodale et islamiste. Après quelques hésitations, en décembre 79, l'Union soviétique de Brejnev décide d'intervenir, toujours à la demande du gouvernement de Kaboul, mais enfin bon, comme toutes les interventions, on demande à l'intervenu de demander l'intervenant, pour soutenir le régime de Kaboul face à cette insurrection islamiste. L'Occident prend parti pour les islamistes. Les États-Unis, c'est les États-Unis de Carter à ce moment-là, envoient des conseillers, de l'argent, des armes et surtout des armes anti-aériennes.
La rébellion bénéficie de ces fameux missiles sol-air Stinger dès 1986. Ce qui fait que les soviétiques perdent la maîtrise du ciel.
Et en perdant la maîtrise du ciel, ils ne contrôlent plus le sol. Ce qui est arrivé à la fameuse armée afghane, là récemment. Hein. Bon. Alors, je ne vais pas faire le détail de la guerre, mais on connaît la suite. 1988, l'Union soviétique finissante, l'Union soviétique de Gorbatchev, tire le bilan de l'affaire. Ils ont compris que c'était un piège terrible. C'est le retrait soviétique.
Ça a duré 10 ans quand même, l'intervention.
Ah oui, ça a duré 9 ans. Fin 79, milieu de l'année 88. Alors, ce qui devait se passer après le retrait soviétique se passa. Le régime progressiste de Kaboul perd pied progressivement face à l'insurrection féodalo-islamiste. Il résiste quand même 4 ans, 92, c'est la prise de Kaboul par une des parties des islamistes, la Ligue du Nord, dirigée par Massoud et particulièrement soutenu par les Européens et la France. Massoud, l'image, c'était le bon islamiste, celui qu'on présentait à la télévision. Il a fini par accepter d'envoyer les filles à l'école. La stratégie classique de toutes les interventions extérieures de type colonial. C'est-à-dire, face à la majorité qu'on veut contrôler, on choisit une minorité qui sont des bons. La Ligue du Nord, c'est une alliance ethnique minoritaire par rapport aux Pachtounes. On a fait ça en Algérie, par exemple, les Kabyles sont des bons et les Arabes sont des mauvais. On a fait ça au Vietnam, les Hmongs sont des bons et les Vietnamiens sont des mauvais, etc. C'est classique. Et Massoud, il va contrôler Kaboul pendant 2 ans, de 92 à 94, et il va faire ses règlements de compte, il va mettre la ville et la région à feu et à sang, réglant ses comptes ethnico-politiques. Alors certains ont cru penser, naïvement, confondant Massoud et Che Guevara, que c'était un islamiste modéré. Déjà, l'expression est stupide, mais l'opposition aux talibans, c'est pas qu'il est moins islamiste que les autres, c'est qu'il n'a pas les mêmes intérêts géographiques et ethniques. C'est un persan, il n'est pas perse, mais il est dans la culture perse, alors que les talibans sont beaucoup plus proches du Pakistan. Et il règle ses comptes, et il finit d'ailleurs par se faire virer en 94 par les talibans, qui sont les plus nombreux, et qui l'amènent à prendre ses quartiers d'hiver au nord du pays, dans la fameuse vallée, l'imprenable vallée du Panjshir, qui vient de tomber aux mains des talibans en 48 heures. Voilà.
Mais au moment où on se parle aujourd'hui, 1er octobre 2021. Daniel, sans doute vas-tu en parler, mais tu as survolé un peu rapidement les 9 à 10 années d'intervention soviétique en Afghanistan, avec donc des islamistes qui reçoivent un soutien occidental, qui reçoivent notamment ces fameux missiles Stinger.
Les fameux missiles sont déterminants, mais pas que ça. Il y a la présence de troupes spéciales, il y a le financement, il y a les autres armes. Mais ça, c'est probablement l'élément décisif. Voilà.
Parmi tous ces islamistes soutenus par l'Occident et par les États-Unis, je m'étonne que tu n'aies pas encore mentionné un personnage dont on entendra pourtant beaucoup parler par la suite, un certain Oussama Ben Laden. Toujours bon de rappeler que ce monsieur Ben Laden a été un agent de la CIA.
Alors justement, Ben Laden est un islamiste, comme les Pachtounes et comme la Ligue du Nord. Mais lui, c'est un arabe.
Ça vous dit.
Et la Ligue du Nord et Massoud lui sont hostiles. Mais pas parce qu'ils sont des gentils contre méchants, mais parce qu'ils sont d'une autre influence culturelle et ethnique, Ben Laden. Et il s'allie avec les Pachtounes. Quand il sera pourchassé de partout, ils vont le protéger. Et puis finalement, il se réfugiera au Pakistan. Mais je rappelle que les Pachtounes sont proches des Pakistanais.
C'était bien de revenir sur cette période où, pendant l'occupation soviétique, l'Occident avait ses bons islamistes, parce que ça permettait à de grands philosophes, comme on a chez nous, Bernard-Henri Dupont-Levis, par exemple, qui à l'époque ne parlait pas des talibans, mais des combattants de la liberté. Oui. Pourtant, alors, c'était les mêmes.
Je vous rappelle que les combattants de la liberté, c'est les Moudjahidines. Moudjahidine, ça veut dire combattant du djihad, c'est marqué dessus.
Et c'était des bons, forcément, parce qu'ils étaient contre les soviétiques et contre les communistes, c'est-à-dire contre un système affreusement totalitaire, qui voulait en particulier la réforme agraire et l'éducation des jeunes filles. Donc c'était épouvantable, il fallait se battre contre ces gens-là. Alors les Bernard-Henri Lévy et compagnie, ils ont fait leur job.
En 92-94, Kaboul est contrôlé par la Ligue du Nord. Massoud, il est finalement chassé par les talibans, c'est-à-dire les Pachtounes, qui prennent le pouvoir en 94. Dans la majorité du pays, la Ligue du Nord se réfugie dans les montagnes, la fameuse vallée du Panchir, et le régime progressiste laïque existe encore, mais enfin réduit en quelque sorte à quelques quartiers de Kaboul. Alors il y a quand même un épisode qu'il faut rappeler. En 96, le dernier premier ministre du régime progressiste, Najibullah, se réfugie dans les locaux de l'ONU pour être protégé des talibans. L'ONU ne le défend pas, n'a sans doute pas les moyens de le défendre. Najibullah est pris par les talibans. Il est torturé, émasculé, pendu, et son corps est traîné dans Kaboul. Voilà ce que nous avons soutenu. 96. En 2008, à l'époque du gouvernement de Karzai, on a fait un sondage d'opinion auprès des Afghans. Alors, je ne sais pas s'ils avaient des villes, des campagnes. Le sondage d'opinion en Afghanistan et en général, on peut toujours avoir des doutes. Mais qui posait la question suivante. Sous quel gouvernement vous avez été le plus heureux? 93% des Afghans répondent sous le gouvernement de Najibullah. Voilà. L'assassinat dans les conditions que j'ai rappelées est de 96. En 98, le conseiller à la défense des États-Unis qui a théorisé et mis en œuvre le soutien de l'Occident et des États-Unis en tête aux islamistes contre le gouvernement progressiste de Kaboul, qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, d'origine polonaise, donne une interview à un hebdomadaire français, pas spécialement d'ailleurs anti-américain, c'est le Nouvel Observateur, 98. Deux ans après l'assassinat de Najibullah, mais avant le 11 septembre 2001. Et la journaliste du Nouvel Observateur lui dit à un moment, mais enfin, monsieur Brzezinski, vous ne regrettez pas d'avoir aidé, financé, armé des islamistes en Afghanistan? Brzezinski répond la chose suivante, je cite, à un mot près. Pas du tout. Qu'est-ce que quelques islamistes excités en Afghanistan à côté de la chute de l'Union soviétique et de la libération de la Pologne? Je pense qu'il n'aurait pas osé dire ça.
Après le 11 septembre 2001.
Il était mort à ce moment-là. Hein. Donc voilà. Alors, 2001, les talibans qui ont protégé Ben Laden, etc. C'est l'attentat contre le World Trade Center. Alors, remarquez qu'il se passe exactement la même chose en Afghanistan qu'en Iran. L'Occident et les États-Unis aide Khomeini à remplacer le Shah, Khomeini se retourne contre l'Occident. Les talibans, pareil, Dieu sait si on les a aidés, hein. Eh bien, ils se retournent. Et c'est le World Trade Center, les avions dans les tours jumelles, etc. Cela déclenche l'intervention des États-Unis et de l'OTAN, dont la France. Chirac est président, Jospin est premier ministre.
Le World Trade Center, 11 septembre, etc., c'était essentiellement des Saoudiens. Mais ces Saoudiens et ces Al-Qaïda et compagnie étaient réfugiés en Afghanistan. C'est ce qui a donné un prétexte aux États-Unis.
Voilà. Et voilà, le gouvernement taliban est devenu protecteur du terrorisme islamiste international. Et à ce moment-là, Ben Laden est sans doute en Afghanistan. Souvenez-vous qu'on nous montrait à la télévision comment Ben Laden et les talibans avaient construit des abris anti-atomiques à travers les montagnes afghanes. Tout ça a été faux, hein, évidemment. Bon, alors, était-il encore en Afghanistan? Était-il déjà au Pakistan? J'en sais un peu trop rien. Mais autre chose qui est intéressante, à partir du moment où Ben Laden est devenu tricard, aussi bien vis-à-vis des États-Unis que vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, leurs alliés, il y a un autre pays qui est venu à son secours. C'est la Bosnie. Nous avons aidé aussi la Bosnie dans le cadre des guerres d'effondrement de la Yougoslavie. La Bosnie indépendante et islamiste donne un visa et un passeport à Ben Laden. Voilà aussi ce que nous avons soutenu. Voilà la situation. Et les États-Unis, l'OTAN, les États-Unis mettent en place un nouveau régime d'Hamid Karzai qui va sombrer dans l'immobilisme et la corruption de toute mesure. Alors, il faut savoir quand même qui est Hamid Karzai. En 2001, le président, c'est George Bush II. Hamid Karzai est un ancien cadre de la firme pétrolière de la famille Bush. On ne peut pas faire plus clair, hein, quand même. Et il va partir avec armes, bagages et bifton il y a quelques années. Et l'Occident et les États-Unis mettent en place un régime fantoche de Karzai à août-septembre 2021 qui sombre dans la corruption, l'immobilisme. Alors, vous savez, les États-Unis ont formé la fameuse armée afghane pour lutter contre les méchants talibans. En fait, l'armée du gouvernement afghan n'a jamais existé. Comme les États-Unis payaient pour former l'armée, eh bien, on a créé des divisions ou des régiments fantômes. Les États-Unis payaient, l'argent allait dans les poches des divers corrompus. C'est un peu comme l'armée syrienne libre. Elle n'existe pas.
Il y a un truc qui existe bien, c'est l'aide militaire sous forme de matériel que les États-Unis ont déversé, parce que c'est ce qui explique qu'aujourd'hui les talibans ont des Hummers américains flambant neufs, des tanks, des flingues dernier cri américains.
Bien sûr, parce que l'aide est en argent, mais aussi en matériel. Et on a vu un petit peu à l'image des grandes victoires depuis l'Antiquité, comment le vainqueur brandit les armes du vaincu. Alors, le retrait américain s'explique parce que, un, ils avaient compris à quel point il n'y avait plus rien à tirer pour eux en Afghanistan et que les problèmes se situaient ailleurs, dans le Pacifique, la zone Indo-Pacifique. Le retrait américain a été négocié avec les talibans par Trump et il a été mis en œuvre par Biden dans des conditions catastrophiques.
Les Américains, ils ont quand même passé 20 ans.
Alors, ça a duré 20 ans.
Pas que les Américains, parce qu'ils ont entraîné avec eux des alliés, des Français,
oui,
des...
Absolument. C'est une guerre de 20 ans, oui, qui a subi le même résultat que la guerre des Soviétiques et les trois guerres des Britanniques. D'où l'expression « le cimetière des empires ». Croisée des civilisations et cimetière des empires. Voilà. Alors, les conditions lamentables dans lesquelles c'est passé, honteuses, qui portent un grave discrédit aux États-Unis. Mais il est intéressant de remarquer que, au même moment où Biden fait cette piteuse débâcle à Kaboul, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est à Taïwan pour leur dire à Taïwan : vous inquiétez pas, on va vous soutenir. Et l'affaire des sous-marins australiens en même temps, c'est-à-dire l'autre base, quelle est la cible ? La Chine.
Et sur l'effondrement de la prétendue armée afghane, en fait, il n'y a pas tellement à s'étonner. Tu parlais de régiments fantômes et puis de gens finalement très peu motivés à se battre. Parce qu'on glosait encore cet été là sur les talibans, c'est des va-nu-pieds en mobylette. Mais bon, face à des gens qui, de toute façon, n'ont pas envie de se battre.
Il est bien possible qu'une partie non négligeable, mais ça pour l'évaluer, des Afghans. Alors à Kaboul, c'est peut-être différent. Mais ils ne sont pas forcément hostiles aux talibans parce qu'ils y voient un retour à la paix, à l'ordre, l'ordre islamique. Et le gouvernement fantoche tenu à bout de bras par les États-Unis n'avait en fait le soutien de pas beaucoup d'Afghans. Alors certes, il y avait des Afghans qui étaient pour, qui étaient des collaborateurs, et c'est les conditions dans lesquelles on les a abandonnés. Mais ça, rien de nouveau sous le soleil non plus. C'est les Harkis en Algérie, c'est les Hmong au Vietnam.
Petite pause dans cette rapide histoire de l'Afghanistan contemporain avec cette danse guerrière pachtoune. Suite de cette spéciale Afghanistan, c'est avec André autour d'un article du Monde diplomatique. André, comme on le disait à l'instant avec Daniel, nos brillants éditorialistes ont beaucoup glosé sur ces talibans qui n'étaient pas très dangereux. C'était des gens pas sérieux, laminés, qui se tairaient, paraît-il, des va-nu-pieds en mobylette, qui auraient dû affronter une armée afghane moderne et abreuvée de matériel américain. Or, ça s'est pas passé comme ça. Les régiments fantômes, par définition, ne peuvent pas se battre parce qu'ils sont fantômes. Et les soldats afghans, en fait, n'avaient pas envie de se faire laminer. S'agit-il uniquement que d'une défaite militaire ?
Non. Non, je ne veux pas dire que l'aspect militaire est complètement secondaire et sans importance, c'est extrêmement important, mais c'est une guerre, une guerre civile en même temps. Mais les Américains ont perdu, et comment expliquer ça ? L'article du Monde diplomatique de septembre 2021 explique, avec des arguments assez convaincants quand même, les causes de la défaite des Occidentaux en Afghanistan. Ils ont tout raté, à tout point de vue. Et pourtant, ils ont essayé de faire quelque chose d'autre. Il s'agissait de reconstituer un État, un petit peu comme l'Allemagne après 1945. Comment reconstituer un État, refaire des cadres, refaire une constitution, un droit, un fonctionnement social et politique, etc., d'un État. C'est pas simple, d'autant qu'en Afghanistan, c'est pas une recréation, c'est presque une création ex nihilo. Dans des conditions un peu spéciales, particulières, la société afghane n'est pas la société allemande ou japonaise d'après la guerre. C'est une société qui a un héritage de structures sociales que nous considérons, nous, comme extrêmement rétrogrades, à certains points de vue, etc. Bon.
Les polis ont dit tribal.
Oui, c'est ça, ethnique, etc., etc. Alors les Américains, ils ont même doté leurs unités militaires d'anthropologues, des gens titulaires d'une maîtrise d'anthropologie, formés par des conseillères scientifiques, etc. Bon, bref. Comment s'adresser à une population, se faire ami-ami avec la population locale. Alors je cite dans l'article, gagner la confiance de quelques villages, travailler avec ceux avec qui ils commercent, se marient ou font des affaires, etc. Ceci permet d'obtenir des alliés locaux, une population mobilisée, des réseaux de confiance. En quelque sorte, il s'agit de faire pas à l'aveuglette, taper dedans, etc. Bon, c'est un échec complet. C'est un échec complet parce que, d'abord, on a considéré, c'est ça la grande erreur des Occidentaux, que cette société était uniquement tribale et obéissait à des règles anciennes, ancestrales, millénaires, etc. Alors que la société afghane commençait à évoluer. Elle se détribalisait. Il y avait des limites à la lecture ethnique de la société. Non, la société n'était pas uniquement constituée d'une mosaïque, etc. Cette société avait évolué, pourquoi pas ? On n'est pas les seuls à évoluer, ces gens évoluent aussi. Et là, ça a été l'énorme erreur. On a commencé par mettre des pro-occidentaux. Les Américains ont tout le temps fait ça, partout, en Corée, aux Philippines. On met des américano-philippins ou des américano-coréens, etc., si possible des hommes d'affaires, un peu crapuleux, etc., à la tête des États pour devenir des États amis des États-Unis. Vaut mieux quand même faire partie de la grande mafia américaine. Donc c'est ce qu'on a fait en Afghanistan. On a dit hommes de confiance, etc., et on va refaire un État. Alors on leur a parachuté une constitution, on leur a parachuté un fonctionnement, et on n'en a pas tenu compte. C'est-à-dire qu'en fait, on a donné du pouvoir central, on a affaibli le Parlement afghan et on a directement traité avec les pouvoirs locaux que l'on contrôlait pas, sur lesquels on n'avait aucune prise. Ça a été un échec complet. Alors pour revenir un peu aux militaires, on a fait des milices, les États-Unis ont fabriqué ce qu'ils font toujours, des milices semi-privées sous contrôle de la CIA et armées bien sûr par les Américains. C'était des anciens moudjahidines qui avaient combattu contre les soviétiques et qui avaient été nommés gouverneurs. Ils avaient servi d'auxiliaires à l'armée américaine dans la traque des gens d'Al-Qaïda, puis dans la lutte contre les talibans. C'était des mercenaires. Bon, ils ont fait des exactions dans les provinces, etc. Ils ont réglé des comptes personnels. Eux, ils ont réglé leurs comptes personnels en dénonçant. Ça a été généralisé pour se débarrasser d'un adversaire en affaires ou en affaires familiales ou un truc comme ça. On le dénonce. On dit c'est un copain des talibans et les Américains se chargent de l'éliminer. Il y a eu plein de scandales de cet ordre-là. Tu t'imagines l'impact sur les populations locales. Ensuite, installer une administration. L'exemple de la justice, c'est très important pour les gens, la justice. Sécurité, justice, ils ont besoin de ça. Toute population a besoin d'avoir une justice. La justice de Kaboul, elle était très loin et elle n'était pas légitime. Elle était incompréhensible. Alors les talibans, eux, ils ont tout compris. Ils ont nommé des juges. Or, ce n'est pas des gens qui ont fait des études de droit à Harvard. Hein. Non, ils étaient dans une madrassa en Pakistan. Ils sont sortis tous du même moule islamique. Alors, sur le plan juridique, c'est primitif. C'est le droit musulman traditionnel coutumier. Mais ça, les gens comprennent. Et en plus, c'était une justice extrêmement proche des gens. Et c'était une justice honnête. Les talibans, ils n'ont pas fait l'erreur des autres, c'est-à-dire d'avoir des juges corrompus. Ils ont, au contraire, il y avait une inspection et ça changeait, ça tournait, c'était pas les mêmes juges.
L'article du Monde diplomatique signale aussi que dans des zones à nouveau contrôlées par les talibans, certains services publics, type santé, étaient mieux assurés que sous le régime Karzai. Et bon, ça c'est un truc qu'on a déjà vu ailleurs en Égypte, les frères musulmans, machin, etc. C'est une grande tactique islamiste d'assurer des services publics que l'État n'assure plus. Ça a contribué aussi à leur succès aux talibans.
Pas aussi, surtout si tu veux gagner dans une guerre civile, c'est une guerre civile, il faut acquérir la confiance des gens. Il faut qu'ils soient avec toi. Et les gens, ils étaient, même s'ils n'étaient pas pro-talibans, ils étaient contre. Les talibans n'ont eu aucune difficulté. Bon, certes, ils ont installé la charia, plus de filles à l'école, etc. Ils ont remanié les programmes scolaires. Hein, d'accord, nous sommes d'accord, c'est vrai. Et bien, ça gênait moins les habitants que le système corrompu et incompréhensible venant des villes, etc. Ils ont tout raté. Même l'aide humanitaire, tout ça s'était parachuté dans des bulles qui étaient à Kaboul, isolées de la population. Des gens, une sorte de personnel spécialisé occidental parachuté sur un pays comme ça. Mais ça, on ne fait pas une révolution comme ça.
Ça explique très certainement la rapidité stupéfiante avec laquelle les talibans ont contrôlé le pays. Hein. J'entendais des spécialistes deux jours avant la prise de Kaboul qu'ils ne prendraient pas Kaboul avant le printemps prochain parce que l'hiver et compagnie. Hein. La fameuse vallée du Panjshir, l'imprenable vallée du Panjshir, 48 heures. Ben, c'est qu'ils n'ont pas rencontré de résistance, ou pas beaucoup.
Et les talibans ont recruté dans toutes les ethnies. Non, c'est pas seulement des Pashtuns. Pashtuns, 40%, bon, à peu près la même proportion de Pashtuns chez les talibans que dans la population afghane. En fait, ils ont représenté l'intérêt national. Les nationalistes afghans, c'était les talibans. Là, t'as gagné une fois que c'est comme ça, puisque tu incarnes le pays. Et donc, la défaite américaine, c'est une défaite politique. C'est une défaite du système corrompu occidental, en plus incompréhensible. Alors, vous avez vu, après la défaite, le retrait des Occidentaux, etc., nos médias dégoulinaient d'articles pour dire « Ah, maintenant, les femmes afghanes, etc., etc. Les femmes. » Bien sûr, c'est clair que le droit musulman traditionnel, celui qui va être imposé par les talibans, il est très défavorable aux femmes, très défavorable à la scolarisation des filles, mais c'est pas ça qui a été déterminant. D'abord, parlons-en du droit des femmes dans les campagnes, dans les provinces, là où étaient les talibans. Ils n'étaient pas en ville, hein, évidemment, ils n'étaient pas au centre-ville, hein, en particulier à Kaboul. Mais dans ces provinces-là, il était où le droit des femmes? Je veux dire, est-ce qu'il y avait des écoles partout? Est-ce qu'il y avait des dispensaires partout? Est-ce qu'il y avait de l'information? Il était où le droit des femmes? Tu comprends? Si tu veux t'imposer, gagner la confiance, hein, et une légitimité politique auprès d'une population, bah, faut donner pas seulement à une minorité de petites bourgeoisies occidentalisé au centre-ville, mais à tout le monde, eh ben c'est un échec. C'est un échec complet, mais c'est un échec écrasant. Mais je pense que les Américains n'ont pas compris. Hein. Ils essaieront de refaire la même chose ailleurs. Hein. Le modèle américain étant tellement beau, tellement admirable, avec le droit des femmes, il y a autre chose aussi. Il y a la société occidentale. Est-elle si désirable pour ces populations-là? On le voit aujourd'hui. Il va peut-être falloir que l'Occident, globalement, ou que la France change ses alliances, ou que l'Occident réexamine ses présupposés idéologiques.
Et c'est intéressant de voir comment le nouveau régime s'intitule. C'est Émirat islamique d'Afghanistan. C'est-à-dire, c'est exactement le modèle iranien. Émirat, une république islamique nationale. Ils assument une sorte de destin national et ils se sont engagés, il faudra voir, à ne plus servir de base arrière au terrorisme international. Mais c'est ce que fait l'Iran depuis perpète, hein, ça. Alors, je voudrais revenir sur les 90 kilomètres de frontières communes entre l'Émirat islamique d'Afghanistan et la République populaire de Chine. Avant même de prendre Kaboul, il y avait une délégation talibane à Pékin. Et en gros, quel a été le deal? On arrête les infiltrations islamistes au sein des populations ouïghours, on vous fout la paix avec ça, et en échange, vous nous aidez. Vous nous reconnaissez et vous nous aidez à développer le pays. Mais c'est très intéressant à la fois pour les Afghans et pour la Chine. La Chine s'engageait à aider à l'industrialisation du pays. Lithium, cuivre, terres rares. C'est un accord, comme on dit dans le monde des Golden Boys, gagnant-gagnant. L'Occident et les États-Unis se sont fait évacuer de l'affaire. Ils ont essayé en même temps, tandis que les talibans étaient à Pékin, il y avait l'autre, Kamala Harris à Taïwan, etc. Et puis l'histoire des sous-marins, etc. pour compenser. Mais à l'époque de Massoud, même chose. Très soutenu par l'Europe et surtout la France. Et pourquoi? La vallée du Panjshir est riche en diamants. Pendant qu'on célébrait le Massoud en le confondant avec Che Guevara, les entreprises françaises exploitaient les mines de diamants. Voilà.
pour clore aussi, parce que nos éditorialistes malins et autres grands stratèges se foutaient de la gueule des talibans sur leur mobylette. Mobylette qui, me semble-t-il, avait déjà, il y a quelque temps, servi au Mollah Omar à s'échapper. Enfin bon, bref. Or, depuis le Vietnam, depuis Dien Bien Phu et depuis bien d'autres batailles perdues par les Occidentaux, il semble qu'on n'ait toujours pas compris qu'il ne suffit pas d'avoir des gros avions, des gros flingues et des gros missiles, que face à des gens déterminés qui connaissent bien leur terrain, une mobylette, bah, c'est peut-être plus adapté à certaines routes caillouteuses, à des embouteillages en ville. Quand tu veux exfiltrer des guerriers ou des terroristes, etc., bah, une mobylette, c'est quand même plus pratique qu'un 4x4. Donc, peut-être à l'avenir, les grands stratèges feraient bien de se méfier des guerriers en mobylette.
Bien sûr, tu as absolument raison de relever cette histoire de mobylette et de faire la comparaison avec le Vietnam.
Il est bien fou, les Viet, ils ont monté les canons à vélo à fond de montagne. Hein,
Absolument, tout à fait. Toute l'artillerie a été montée en vélo. Mais c'est une guerre populaire. Et les talibans ont mené une guerre populaire. On le regrette, évidemment. Je le regrette, moi aussi. Je ne suis pas un apologue des talibans, vous pensez bien. N'empêche que... il faut le constater, objectivement, ils ont mené une guerre populaire et ils l'ont remportée. Alors bien sûr, les armes que leur ont fournies obligeamment les Américains les ont aidés, certainement. Mais s'ils n'avaient pas eu l'appui ou la neutralité ou la bienveillance d'une partie de la population, ils n'auraient pas gagné. Donc en fin de compte, les responsables de cette catastrophe anti-féministe en Afghanistan, ce sont les Occidentaux. Alors ils ont mis beaucoup de pognon, bien sûr qu'ils ont fait des hôpitaux, bien sûr qu'ils ont fait des dispensaires, mais ils les ont pas fait partout. Et ils n'ont pas fait les conditions pour l'utilisation démocratique de cette chose-là. Et ils n'ont pas fait le pari démocratique, c'est-à-dire le pari de donner le pouvoir aux gens. Non, non, la démocratie a été importée, implantée de façon très artificielle, avec corruption évidemment, et ça a été un échec complet. C'est ça dont il faut rendre compte aussi, pas seulement d'un échec militaire.
Oui, le Vietnam, les images qu'on a vues à Kaboul, c'était les images de Saïgon, 30 avril 1975. L'hélicoptère au-dessus. Là, il y en avait deux ou trois à Kaboul. On revoyait les images de Saïgon 75. Et donc, aussi désastreux que puisse nous apparaître à nous, et je partage ce qu'est le pouvoir taliban, il est le résultat de notre politique depuis 1979-80, c'est-à-dire plutôt l'islamisme que les rouges. C'est toujours l'affaire. Et effectivement, la longue histoire de l'Afghanistan est fidèle à elle-même, en quelque sorte. C'est bien un carrefour de civilisation, mais c'est aussi le cimetière des empires.
Dernière ligne droite de cette spéciale Afghanistan, c'est tout de suite avec Philippe et sa remarque sur les médias.
Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort.
Salut Philippe.
Bonjour.
Remarque sur les médias et nous voici entre le 15 août et le 2 septembre 2021.
Ces dates se rapportent à deux événements que les médias n'ont guère mis en relation l'un avec l'autre. Il s'agit d'une part de la prise de Kaboul par les talibans, donc de leur victoire finale après 20 ans de guerre sur les Occidentaux, et du refus par la Cour suprême des États-Unis d'examiner une loi de l'État du Texas, gouvernée par les Républicains, loi qui interdit de facto l'IVG au-delà de 6 semaines, y compris en cas d'inceste ou de viol. Et ce refus d'examen par la Cour suprême est revenu, en fait, à laisser passer cette loi sans s'y opposer. Où est la relation? Il faut, pour la voir, exposer 3 ordres de faits. Premièrement, la victoire des talibans a été présentée comme une grande menace pour le statut des femmes afghanes. Celle-ci risque d'y être de nouveau soumise, comme d'ailleurs dans nombre de pays musulmans régis par la charia, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, le Soudan, le Yémen, l'Afghanistan, à une lourde suggestion masculine, suggestion maritale et patriarcale de la part du père, de l'oncle ou du frère, notamment dans le domaine de la profession de l'éducation, de la sexualité et de la procréation. Par exemple, un travail universitaire rédigé en 1995 par la doctorante canadienne Lynn Marie Larocque établissait que dans nombre de pays musulmans, le viol n'est pas distingué de l'activité sexuelle ordinaire et qu'en cas de viol, y compris par un ascendant, un frère ou un oncle, c'est la femme violée qui est considérée comme souillée et son opprobre rejaillit alors sur toute la famille. Elle est souillée et elle est coupable. Coupable au point qu'elle est souvent bannie quand elle n'est pas carrément assassinée par ses proches. Deuxième point, l'affrontement entre les Américains et les talibans a souvent été vu de façon emblématique comme un conflit de civilisation. L'Afghanistan des talibans étant présenté comme le contre-modèle absolu de la société américaine censée, elle, représenter la liberté, l'émancipation, la prééminence des droits de la personne, l'éducation, l'ouverture aux autres, bref, ce qu'à l'époque de la guerre froide, on appelait le monde libre, avec beaucoup de guillemets. Par opposition au totalitarisme communiste, censé représenter, selon les propos de Ronald Reagan, l'empire du mal. En outre, dans les fantasmes de l'extrême droite française et européenne, le monde musulman est vu comme une menace de submersion migratoire et de subversion des valeurs du monde judéo-chrétien, c'est-à-dire de l'empire du bien, avec un B majuscule. Troisième point, la loi texane interdisant tout IVG au-delà de 6 semaines est une loi très restrictive et très régressive. En effet, comme une femme a ses règles en moyenne toutes les 4 semaines, elle n'a que 2 à 3 semaines également en moyenne pour se rendre compte de son aménorrhée, donc de son début de grossesse. Et à ce moment-là, elle a souvent dépassé le délai légal et elle tombe sous le coup de la loi. Cela signifie que la loi texane, de facto, encourage carrément le viol et l'inceste par ascendant. Et comme cette loi n'a pas confié aux autorités judiciaires, ce qui est vraiment du vice ou de la perversité, mais aux simples citoyens, le soin de dénoncer à la justice les femmes qui se sont fait avorter, on peut imaginer que, perversité suprême, ce soit le violeur lui-même qui aille dénoncer sa victime qui se serait fait avorter.
Ce qui s'était passé avec le cas de l'une des clientes de Gisèle Halimi, une gamine qui avait avorté et qui avait été dénoncée, parce qu'à l'époque c'était illégal, qui avait été dénoncée par son violeur.
Ce lien entre deux des idéologies les plus rétrogrades du monde, celle des talibans d'un côté, celle des texans conservateurs de l'autre, est bien illustré par le numéro du magazine Rivarol du 1er septembre. Rivarol est un organe d'extrême droite, pétainiste, pro-hitlérien, intégriste catholique, homophobe. Par exemple, il nomme les homosexuels, il ne dit jamais homosexuel ou gay, il dit les invertis. Et les couples homosexuels, il les nomme des pères. Il ne dit pas que c'est des couples, c'est des pères. Il négationniste la Shoah, antiféministe, raciste. Bon, il coche toutes les cases. Et il écrit ceci. Certes, le certes est délicieux. Le sort des femmes afghanes ne sera pas fameux à partir de cet été. Et c'est le certes. Mais la lutte féministe n'est pas du tout la nôtre. En Occident, elle a servi de prétexte à la destruction de la famille. La victoire des talibans est une incontestable défaite de l'axe américano-onusien mondialiste. Et je conclus en disant, on ne saurait mieux dire ou pire. Voilà.
Vous reprendrez bien un peu de certes. Dis-moi Philippe, tu as mentionné à un moment de ces idéologues qui évoquent le grand remplacement, toutes ces bonnes femmes qui seraient devenues n'importe quoi depuis mai 68. J'ai oublié son nom là, mais un juif qui trouve le régime de Pétain formidable. Comment appelles-tu les admirateurs de ce type ?
On les a nommés les Zemmouroïdes.
C'est bon ça.
Merci Philippe.
Ça fait mal au cul.
C'est à fait. Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette spéciale Afghanistan, à réécouter sur notre site polymixetlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5.